Charles et Mary Lamb, conte tiré de Shakespeare, Othello. Brabantio, riche sénateur de Venise, avait une fille aussi belle que pure, la douce Desdémone, que de nombreux partis recherchaient en mariage, autant pour ses qualités et ses vertus que pour ses brillantes perspectives de fortune. Mais, parmi ses prétendants de même race et de même couleur qu'elle, la noble fille n'avait distingué personne qu'elle pût aimer. Elle jugeait les hommes par le caractère et non par les traits du visage, et chose plus étrange que digne d'imitation, elle avait donné son cœur à un noir de la Mauritanie, aimé de son père qui souvent le recevait à son foyer. L'incongruité de ce choix n'était pas d'ailleurs absolument condamnable. À part la couleur de son teint, le noble Maure était de tout point digne de l'amour des plus grandes dames de son temps. Soldat et brave, il s'était élevé par sa belle conduite, dans de sanglantes guerres contre les Turcs, au rang de général dans le service de Venise, dont le gouvernement l'estimait et l'honorait de sa confiance. Il avait beaucoup voyagé, et Desdémone raffolait, comme toutes les femmes, de récits d'aventure. Aussi, comme elle l'écoutait racontant sa vie d'aussi loin qu'il pouvait se souvenir, les batailles, les sièges, les combats corps à corps où il avait été engagé, et les dangers qu'il avait courus sur terre et sur mer, 100 fois, il n'avait échappé à la mort que par miracle, en pénétrant dans une brèche ou en affrontant la gueule d'un canon. Puis un audacieux ennemi l'avait fait prisonnier et vendu comme esclave. Et il disait comment il s'était conduit alors, puis enfui. Et il mêlait à tous ses récits les descriptions des choses étranges qu'il avait vues dans les pays lointains. Les immenses déserts, les cavernes romantiques, les carrières, les rocs et les montagnes dont les cimes se perdent dans les nues. Les nations sauvages, les mangeurs d'hommes et certaines races africaines dont les têtes, affirmait-il, croissent au-dessous de leurs épaules. Desdémone écoutait tout cela avec tant d'habileté que, si quelques détails de ménage l'obligeaient à s'absenter un instant, elle dépêchait bien vite toute affaire importune pour revenir haletante dévorer ce qui restait du discours d'Othello. Un jour même, il profita d'une heure de poignante émotion pour l'amener à le supplier de raconter dans son entier cette existence merveilleuse dont elle savait déjà tant de choses, mais sans suite. Il y consentit et lui arracha plus d'une larme au récit d'un terrible incident de sa jeunesse. Quand il eut cessé de parler, elle l'en récompensa par une tempête de soupirs. Elle laissa même échapper un petit juron, s'écriant que tout cela dépassait ce qu'elle avait entendu de plus merveilleux, de plus étrangement émouvant. « Je souhaiterais, lui dit-elle, ne vous avoir point entendu, et pourtant je voudrais que le ciel eût fait de moi un homme tel que vous. Merci 1000 fois, et si vous avez un ami qui m'aime, vous n'avez qu'à lui apprendre à me raconter vos aventures. Il serait sûr ainsi de me conquérir. » À cette ouverture, faite avec non moins de modestie que de franchise, et rendue plus nette encore par une grâce irrésistible et de pudique rougeur, Othello s'enhardit à parler de son amour et, dans cet heureux moment, décida la compatissante Desdémone à l'épouser en secret. Il n'y avait rien dans la couleur ou la fortune d'Othello qui pût lui faire espérer que Brabantio l'accepterait jamais pour gendre. Le sénateur avait jusqu'alors laissé pleine liberté à sa fille, mais il s'attendait bien à la voir se conformer bientôt aux usages des nobles vénitiennes et se choisir un mari de rang sénatorial ou de brillantes espérances. En cela, il devait être déçu. Desdémone aimait le mort en dépit de son teint noir. Son cœur, sa destinée, elle les avait consacrés à ce vaillant. Il l'avait subjugué à tel point qu'elle préférait de beaucoup à tous les teints clairs et fleuris des jeunes seigneurs vénitiens, ses adorateurs, la sombre couleur qui, pour toute autre femme moins perspicace, n'eût pas manqué d'être une insurmontable objection. Brabantio ne fut pas longtemps à apprendre le mariage de Desdémone. Le vieillard se leva en pleine séance solennelle du Sénat et accusa le mort Othello d'avoir, par maléfice et sorcellerie, décidé la belle Desdémone à l'épouser sans le consentement paternel et au mépris des lois de l'hospitalité. Or, à ce moment précis, le gouvernement de Venise avait un besoin immédiat des services d'Othello. On avait appris que les Turcs avaient fait d'immenses préparatifs de guerre et avait équipé une flotte qui se dirigeait sur l'île de Chypre dans le but de reprendre cette forte position aux Vénitiens qui la possédaient alors. Othello seul était homme à disputer Chypre aux Turcs et tous les yeux s'étaient aussitôt tournés vers lui. Appelé devant le Sénat, il s'y présenta donc au double titre de candidat à une haute fonction nationale et de criminel accusé d'offense puni de mort par les lois de Venise. La grave assemblée devait à l'âge et au caractère sénatorial de Brabantio de l'écouter avec la plus grande patience. Mais dans son indignation, le vieillard se livra contre Othello à de telles intempérances de langage et éleva à la dignité de preuve tant d'allégations qui n'étaient que des vraisemblances que celui-ci, pour se défendre, n'eut qu'à raconter simplement l'histoire de ses amours. Il le fit avec tant d'éloquence naturelle, il dépeignit avec une candeur si noble, où éclatait la vérité, les péripéties de ses assiduités auprès de Desdémone, que le duc, qui présidait la cour, ne put s'empêcher d'avouer qu'un récit ainsi débité aurait conquis sa propre fille. Dans son opinion, Othello, en faisant sa cour, n'avait employé d'autres enchantements que les honnêtes artifices familiers aux amants, et toute sa sorcellerie se réduisait à savoir bien dire un de ces contes émouvants qui captivent une oreille féminine. Desdémone confirma de son propre témoignage celui d'Othello. Elle reconnut devant le Sénat tout ce qu'elle devait à son père pour la vie et l'éducation qu'il lui avait donnée. Mais elle le supplia de lui permettre d'accomplir des devoirs plus sacrés encore envers son seigneur et mari, comme l'a fait ma mère, dit-elle, en vous préférant à son propre père. Débouté de sa plainte, le vieux sénateur se soumit à la nécessité et donna sa fille à Othello, non sans lui exprimer vivement son chagrin. « Si j'avais été laissé libre de vous l'enlever, lui dit-il, je l'eusse fait certainement de tout cœur. Je suis heureux de n'avoir pas d'autres enfants, car la conduite de Desdémone eût fait de moi un tyran, et je les eusse surchargés d'entraves à cause de sa désertion. » Cette difficulté aplanie, Othello prit immédiatement la direction de la guerre de Chypre. L'habitude lui avait rendu les fatigues de la vie des camps aussi naturelles que le sont aux autres hommes le repos et la nourriture. De son côté, Desdémone consentit de bonne grâce à son départ. Elle faisait passer l'honneur de son mari, bien qu'accompagné de dangers, avant la jouissance de ces oiseuses délices dans lesquelles s'écoulent d'habitude les premiers temps d'une union nouvelle. Les deux époux n'avaient pas plus tôt débarqué à Chypre qu'ils y apprirent la dispersion de la flotte turque par une épouvantable tempête. L'île se trouva donc délivrée de toute crainte d'une attaque immédiate. Mais Othello allait souffrir d'un autre genre de guerre, et les ennemis que la méchanceté suscita contre l'innocente Desdémone furent, de leur nature, plus meurtriers que les étrangers ou les infidèles. De tous les amis du général, aucun ne possédait plus complètement sa confiance que Michel Cassio, jeune soldat florentin, gai, passionné, plein d'aisance et de grâce, toute qualité fort appréciée du sexe. Avec cela, beau, éloquent. L'homme, en un mot, qui pouvait le mieux éveiller la jalousie chez le mari quelque peu âgé déjà, comme l'était Othello, d'une jeune et jolie femme. Mais celui-ci, aussi incapable de soupçonner une mauvaise action que de la commettre, avait l'âme trop noble pour être jaloux. Lorsqu'il faisait la cour à Desdémone, il s'était servi de Cassio comme médiateur entre elle et son amour, qu'il craignait de ne savoir pas exprimer avec ses finesses de dialogue qui plaisent aux femmes et que son ami possédait à merveille. Plus d'une fois, le vaillant mort, avec une innocente simplicité qui lui faisait honneur, avait débuté le jeune homme vers sa belle et l'avait chargé de la courtiser pour lui. Rien d'étonnant dès lors que Desdémone eût donné à Cassio, dans son cœur et dans sa confiance, la seconde place, mais loin de la première, comme il convient chez une épouse vertueuse. Le mariage d'Othello n'avait rien changé à la situation de Michel Cassio. Il visitait souvent l'heureux couple, et sa conversation bruyante et sans contrainte était pour le mort, au caractère plus grave, une agréable diversion, comme il arriva le plus souvent aux gens sérieux, enchantés de trouver ainsi un contrepoids à leur propre morosité. Alors Desdémone et Cassio causaient et riaient ensemble, comme au temps où celui-ci faisait à celle-là la cour pour le compte de son ami. Tout récemment, Othello avait rapproché de sa personne le jeune Florentin en le faisant son lieutenant. cette promotion à une place toute de confiance avait singulièrement offensé Iago, officier plus ancien en grade que Cassio, auquel il n'épargnait pas les épigrammes. Selon lui, celui-ci n'était bon qu'à tenir compagnie aux dames et n'en savait pas plus qu'une petite fille sur l'art de se battre ou de déployer une armée sur un champ de bataille. Bref, il le haïssait cordialement. Quant à Othello, il l'exécrait pour avoir favorisé Cassio et parce qu'il le soupçonnait, injustement et sans preuve, d'aimer sa femme à lui, Emilia. Pour se venger de ses griefs imaginaires, il conçut l'horrible plan d'entraîner dans une ruine commune Cassio, le mort et Desdémone. En homme astucieux qu'il était, Iago avait étudié à fond la nature humaine. Il savait que de tous les tourments qui peuvent être infligés au moral de l'homme, ceux de la jalousie, bien plus redoutables que les tortures corporelles, sont les plus intolérables et font les plus douloureuses blessures. Si donc il pouvait rendre Othello jaloux de Cassio, il pourrait savourer à l'aise sa vengeance et peut-être causer, en fin de compte, la mort de Cassio ou d'Othello, de tous deux même. Que lui importait? Pour célébrer l'arrivée du général et de sa femme, coïncidant si heureusement avec la nouvelle de la dispersion de la flotte ennemie, Chypre s'était en quelque sorte mise en fête. Ce n'était partout que banquets et réunions joyeuses. Le vin coulait à plein bord, et l'on buvait à la ronde la santé du noir Othello et de la blanche Desdémone. Cette nuit-là, Cassio commandait la garde, avec ordre d'Othello de veiller à ce que l'armée ne bût pas avec excès, ce qui eût pu amener des rixes bruyantes, effrayer les habitants et leur faire prendre en dégoût les forces nouvellement débarquées. Iago profita de cette circonstance pour commencer l'exécution de ses mauvais desseins. Sous prétexte de manifester sa loyauté et son affection pour le général, il poussa Cassio à en agir trop librement avec la dive bouteille, un grand tort chez un officier de garde. Tout d'abord, Cassio résista, mais Iago sut si bien s'y prendre que le lieutenant se rendit à ses familières mais respectueuses sollicitations et vida verre sur verre, Iago versant toujours et l'encourageant par ses chansons. Bientôt, Cassio porta toast sur toast à la louange de Desdémone, qu'il affirmait être une femme des plus exquises, jusqu'à ce qu'enfin le vin lui volât sa raison et que pour répondre à une provocation à lui adressée par un individu aposté par Iago, il tira son épée et blessa le brave officier Montano qui s'interposait pour apaiser la dispute. La bagarre devint alors générale, et Iago, premier auteur de tout le désordre, fut le plus empressé à répandre l'alarme. Il fit même sonner la cloche du château, comme s'il se fût agi d'une dangereuse mutinerie au lieu d'une simple querelle d'hommes ivres. Réveillé en sursaut, Othello s'habille à la hâte, arrive sur la scène du conflit et en demande la cause à Cassio, chez qui les fumées du vin commençaient à se dissiper, mais à qui la honte coupait la parole. Interrogé à son tour, Iago feint une grande répugnance à accuser Cassio. Mais sur l'insistance d'Othello, qui veut savoir la vérité, il raconte tout ce qui s'est passé, sans mentionner la part qu'il y a prise et dont le lieutenant était encore trop ivre pour se souvenir. Et le misérable conduit son récit de telle manière que, tout en paraissant vouloir atténuer la culpabilité de Cassio, il l'agrandit outre mesure. Le résultat fut qu'Othello, strict observateur de la discipline, se vit forcé de retirer à Cassio sa charge de lieutenant. Ainsi, la première fourberie d'Iago avait eu un succès complet. Il avait sapé la fortune d'un rival abhorré. Mais il devait faire, dans la suite, un autre usage de l'aventure de cette nuit désastreuse. Entièrement dégrisé par ce déplorable incident, Cassio se lamentait maintenant auprès d'Iago, qu'il croyait toujours son ami. « Comment ai-je pu, disait-il, être assez fou pour me transformer ainsi en bête? Me voilà perdu. Comment irais-je maintenant demander de nouveau ma place au général? Il me répondrait que je suis un ivrogne. » Et le pauvre garçon se méprisait lui-même. Iago, lui, affectait de prendre la chose en riant. « Qui ne se grise pas à l'occasion ? » répliquait-il. « Il n'y a plus qu'à se tirer le mieux possible de cette mauvaise affaire. C'est la femme du général qui est le général à présent. Elle peut faire d'Othello ce qu'elle veut. Le meilleur est donc de prier Desdémone de plaider votre cause auprès de son seigneur. C'est une bonne et obligeante nature. Elle se fera un plaisir de vous rendre ce service et de vous rétablir dans la faveur du général, qui ne vous en aimera que davantage après ce léger accroc à vos bonnes relations. L'avis était bon, en vérité, si, comme la suite le prouvera, Iago ne l'eût donné dans des intentions perverses. Cassio s'adressa en effet à Desdémone qu'il n'était pas difficile de gagner à une honnête cause. Elle promit donc de s'interposer auprès de son mari et de mourir plutôt que de renoncer à le convaincre. Et elle se mit à l'œuvre avec tant de grâce et de chaleur qu'Othello, bien que mortellement offensé par la conduite de Cassio, ne put pas ne pas l'entendre. Quand il demanda du temps, lui disant qu'il était trop tôt pour pardonner à un tel coupable, elle ne se tint pas pour battue, mais insista pour qu'il fît grâce la nuit suivante ou le lendemain, ou au plus tard, le matin qui suivrait. Puis elle fit ressortir le repentir et le désespoir du pauvre Cassio, et combien peu sa faute méritait un châtiment si sévère. Et comme Othello hésitait encore, elle lui dit « Quoi, Seigneur, me faudra-t-il tant plaider pour Cassio, pour Michel Cassio, qui me venait courtiser pour vous, et souvent fois pris votre parti quand je parlais mal de vous ? Sachez que je considère comme peu de choses ce que je vous demande là. Quand je voudrais vraiment éprouver votre amour, je réclamerais quelque chose d'autrement important. » Othello ne pouvait rien refuser à pareil solliciteur. Il promit de rendre à Cassio ses bonnes grâces, ne demandant à Desdémone que de lui laisser le choix du moment le plus convenable pour le faire. Il est bon de mentionner qu'Othello et Iago étaient entrés dans la chambre où se trouvait Desdémone au moment précis où Cassio, qui venait d'implorer son intercession, disparaissait par la porte opposée. L'astucieux Iago, comme s'il se fût parlé à lui-même, avait alors laissé échapper ses paroles « Je n'aime pas cela ». Othello prit peu garde d'abord à ce singulier monologue. L'entretien qu'il eut immédiatement avec sa femme le lui fit même complètement oublier. Mais il se le rappela plus tard, car lorsque Desdémone fut parti, Iago, comme s'il voulait simplement satisfaire une idée qui lui passait par l'esprit, demanda au général si Cassio, alors que le mort faisait sa cour, était instruit de son amour pour la fille de Brabantio. « Sans doute, répliqua Othello, il nous servait même en ce temps d'intermédiaire. « Vraiment, s'écria Iago, fronçant le sourcil, comme s'il avait soudain lu clairement dans quelque terrible mystère. Cette exclamation rappela à Othello les mots qu'avait laissé tomber Iago lorsqu'en entrant dans la chambre de Desdémone, il avait vu Cassio avec elle. Et, pour la première fois, il songea qu'il devait y avoir, à tout cela, quelque signification cachée, car il considérait Iago comme un homme juste, honnête, et s'en croyait sincèrement aimé. Ce qui, chez un malhonnête homme, n'eût été que fourberie, lui apparaissait dans Iago comme le produit naturel d'une âme candide, oppressée par quelques réflexions trop graves pour qu'on lui donnât libre cours. Aussi le pria-t-il de dire ce qu'il savait et de mettre à nu devant lui ses pensées les plus défavorables. « Mais, dit Iago, savez-vous qu'il ne s'est pas glissé dans mon esprit quelque immonde supposition ? Car quel est le palais où ne se faufile quelque chose d'impur ? Et quel malheur si d'imparfaites observations vous faisaient commettre quelque imprudence ? Vous dévoiler mes pensées serait troubler votre paix. On ne compromet pas la bonne renommée des gens sur de légers soupçons. Gardez-vous bien d'être jaloux, ajouta le misérable, quand il vit la curiosité d'Othello, poussée jusqu'aux confins de la folie, par tant d'insinuations si perfidement calculées pour le troubler, le jeter dans le doute par les précautions mêmes qu'on semblait prendre pour l'en éloigner. Je sais, dit Othello, que ma femme est belle, qu'elle aime la compagnie et les festins, qu'elle est libre dans ses discours, qu'elle chante, joue et danse à ravir. Mais là où est la vertu, ses qualités sont vertueuses. Il me faut des preuves avant que je la puisse croire infidèle. J'avoue franchement que je n'en ai pas, répliqua Iago, comme s'il eût été heureux de voir Othello si lent à mal penser de sa femme. Mais je vous supplie de bien observer sa conduite quand elle est en présence de Cassio. Ne soyez pas jaloux, mais ne soyez pas non plus trop confiant, car je connais mieux que vous le tempérament des Italiennes, mes compatriotes, et les dames de Venise laissent voir au ciel plus d'une escapade qu'elles n'oseraient pas laisser voir à leurs époux. D'ailleurs, ajouta-t-il méchamment, Desdémone a trompé son père en vous épousant, et avec tant de malicieuse habileté que le pauvre vieillard a crié à la sorcellerie. Othello fut très impressionné par cet argument ad hominem. Si, en effet, Desdémone avait trompé son père, pourquoi ne pourrait-elle pas tromper son mari ? Iago lui demanda pardon de lui avoir fait de la peine. Mais Othello, en proie à une véritable torture, n'en prit pas moins un air d'indifférence et le pria de continuer, ce que le traître fit en se confondant en excuses d'être contraint de parler contre Cassio, son ami. Il en vint alors brutalement au fait. « Rappelez-vous, dit-il, que Desdémone a refusé nombre de parties avantageuses de sa race et de sa couleur pour vous épouser, vous, fils de la Mauritanie. Fantaisie bien étrange chez cette jeune fille et qui prouve à quel point elle peut pousser l'entêtement dans ses desseins. N'est-il pas probable qu'après réflexion, elle en arrivera à vous comparer avec ses jeunes compatriotes d'Italie, à la tournure si élégante, au teint si blanc et si frais ? Je vous conseille, ajouta-t-il en concluant, de différer quelque temps encore votre paix avec Cassio et de prendre bonne note d'ici là de la chaleur que mettra Desdémone à intercéder pour lui. C'est là un indice qui, du moins, ne vous fera pas défaut. Et voilà par quelle abominable intrigue, avec quelle finesse pleine de méchanceté, ce lâche faisait servir les charmantes qualités de cette innocente femme à sa destruction et s'apprêtait à la faire tomber dans les filets de sa propre générosité. Il avait tout d'abord poussé Cassio à s'assurer la médiation de Desdémone, et de cette médiation même, il s'évertuait maintenant à tirer les moyens de la perdre. Par un raffinement de perfidie, il termina son entretien avec Othello en le suppliant de tenir Desdémone pour innocente jusqu'à preuve décisive du contraire. Celui-ci promit d'être patient, mais dès ce moment, toute paix de l'esprit avait cessé pour lui. Le profond sommeil qui, hier encore, lui était si doux, allait à jamais fuir ses paupières. Ni pavot, ni mandragore, ni toutes les potions assoupissantes de la terre ne le lui pourraient rendre. Ses occupations de chaque jour lui devinrent à charge. La vie des camps n'avait plus de charme pour lui. Lui, que la vue des bataillons, des bannières, d'une armée rangée en bataille, faisait bondir d'allégresse. Lui, dont le cœur tressaillait d'aise au battement d'un tambour, au bruit d'une fanfare ou du hennissement d'un cheval de guerre, il semblait maintenant avoir perdu cet orgueil et cette fière ambition qui sont les premières vertus du soldat. Toute son ardeur militaire, tout ce qui jadis le comblait de joie, semblait l'abandonner. Tantôt il croyait à l'honnêteté de sa femme, tantôt il n'y croyait plus. Un moment il avait foi dans la justice d'Iago, puis il en doutait tout à coup. Il souhaitait alors n'avoir jamais rien su de tout cela. Quand même elle eût aimé Cassio, se disait-il, je n'en eusse pas été plus malheureux, ne le sachant pas. Et l'âme mise en pièces par ce conflit de pensées contradictoires, il sauta un moment au gosier d'Iago et le somma de lui donner des preuves de la culpabilité de Desdémone, sans quoi il l'étranglerait sur l'heure pour avoir osé la calomnier. Le traître, feignant une grande indignation de ce que sa loyauté fut prise pour un crime, demanda au terrible mort s'il n'avait pas parfois vu aux mains de Desdémone un foulard tacheté de fraises. « C'est moi, répondit Othello, qui le lui ai donné. Ça a été mon premier présent. »« Eh bien, dit Iago, j'ai vu, aujourd'hui même, Michel Cassio s'essuyer le visage avec ce mouchoir. »« S'il en est ainsi, hurla Othello, je jure de ne prendre aucun repos avant que ma vengeance ne les ait engloutis. »« Et d'abord, comme gage de ta fidélité, je compte que tu feras périr Cassio d'ici à 3 jours. » Et quant à ce joli démon, ajouta-t-il, parlant de Desdémone, je me retire pour aviser à l'aise à quelque moyen expéditif de l'envoyer dans l'autre monde. Pour un jaloux, les plus petits riens sont paroles d'évangile. Trompé comme il l'était, Othello trouvait suffisant qu'un mouchoir de Desdémone eût été vu dans les mains de Cassio pour les condamner l'un et l'autre à mourir, sans songer même à rechercher comment Cassio se l'était procuré. Jamais Desdémone n'avait fait à celui-ci pareil cadeau. Épouse fidèle, elle n'eut jamais songé à faire à son mari l'affront de donner à un autre homme ce qu'elle avait reçu de lui en présent. Elle n'avait rien à se reprocher envers Othello. c'était le pervers Iago qui, toujours à l'affût d'une machination nouvelle, avait induit sa femme Emilia, une douce et bonne créature, à soustraire le mouchoir de Desdémone sous prétexte d'en faire copier le dessin. Mais en réalité, pour le laisser tomber sur le chemin de Cassio, certain que celui-ci le trouverait et donnerait ainsi une apparence de plausibilité à la perfide accusation que Desdémone lui en avait fait présent. Peu après son entretien avec sa femme, Othello prétexta un mal de tête qui, en vérité, eût pu être très réel et témoigna le désir qu'elle lui prêta son mouchoir pour s'en entourer les tempes. Desdémone obéit. « Non, dit Othello, pas celui-ci, celui que je vous ai donné. » « Je ne l'ai pas sur moi, répondit-elle. Nous savons en effet qu'il lui avait été volé. « Vraiment, dit Othello, voilà ce que j'appelle une faute. Ce mouchoir a été donné à ma mère par une égyptienne, une sorcière qui lisait dans la pensée d'autrui. » D'après ce qu'elle dit à ma mère, ce foulard, tant que celle-ci le garderait, la rendrait aimable et lui assurerait l'amour de mon père. Mais si elle venait à le perdre ou à s'en défaire, les affections de mon père s'éloigneraient d'elle et il aurait pour elle autant d'aversion qu'il avait eu auparavant d'amour. En mourant, elle me le donna, me recommandant, si je me mariais jamais, de le donner à ma femme. C'est ce que j'ai fait. Songez-y, et qu'il soit votre favori, aussi précieux pour vous que votre œil même. « Est-ce bien possible ? » s'écria la pauvre femme, saisie d'effroi. « C'est vrai, continua Othello, c'est un mouchoir magique. Il a été fait dans un accès de transport prophétique par une sibylle qui avait passé 200 ans sur cette terre. Les vers à soie qui en fournirent les fils étaient sacrés, et c'est dans le sang du cœur de jeunes odalisques qu'il fut teint. » En apprenant les merveilleuses propriétés de ce foulard, Desdémone pensa mourir de peur, car elle vit bien qu'elle l'avait perdu, et avec lui, elle le craignait, les affections de son époux. Celui-ci se dressa tout à coup, comme s'il était sur le point de commettre quelque acte de violence, et réclama de nouveau le mouchoir. Ne pouvant le produire, Desdémone tenta d'arracher son mari à de trop sérieuses pensées, et lui dit gaiement qu'elle voyait bien que tout ce fracas à propos d'un foulard n'avait d'autre but que de l'empêcher de plaider la cause de Cassio, qu'elle se mit alors à porter au nu, comme l'avait prévu Iago, jusqu'à ce qu'Othello, fou de rage, s'élança hors de la chambre, laissant la pauvre Desdémone en proie, malgré elle, à la pensée que, décidément, son mari était jaloux. Mais pourquoi ? Elle l'ignorait. Alors elle se blâma d'accuser ainsi son noble Othello. Sans doute quelque déplaisante nouvelle lui était arrivée de Venise, où quelques difficultés d'état lui troublaient l'esprit et lui aigrissaient le caractère. « Les hommes, se dit-elle, ne sont pas des dieux, et nous ne pouvons nous attendre de leur part, pendant le mariage, aux mêmes attentions qu'au jour de nos noces. » Et elle s'emporta contre elle-même pour avoir si défavorablement jugé le manque d'égard de son mari. Hélas, lorsqu'Othello revint, il l'accusa plus ouvertement d'infidélité. « Vous aimez un autre homme, lui dit-il. » Mais il ne le nomma pas et pleura. « Ah ! S'écria Desdémone, que ce jour soit à jamais maudit. Pourquoi pleurez-vous ? » « J'aurais pu, répondit Othello, supporter avec courage toutes sortes de maux, la pauvreté, la maladie, la disgrâce. Mais votre infidélité m'a brisé le cœur. Vous, plante si gracieuse, au parfum si doux et si pénétrant que tous mes sens en sont enivrés, je voudrais que vous n'eussiez jamais vu le jour. » Puis il la quitta, tellement stupéfié d'étonnement de se voir ainsi injustement soupçonné, qu'un sommeil de plomb vint l'assaillir, et qu'elle n'eut que la force de faire préparer son lit par sa servante, après lui avoir commandé d'y placer ses draps de noces. « Quand on instruit un bébé, dit-elle, on le fait avec douceur et en lui mesurant des tâches faciles. Et de bonne foi, que suis-je autre chose qu'un petit enfant quand on me gronde ?» Othello aurait bien pu s'y prendre ainsi. Et ce fut là toute la plainte que fit entendre cette douce créature. Puis elle se coucha, espérant que son époux la rejoindrait bientôt. Elle ne tarda pas à tomber dans un assoupissement qui n'était que la conséquence du trouble profond de son âme, et pendant lequel Othello entra, tout plein du sombre projet qu'il avait conçu de mettre sa femme à mort. Mais quand il la vit endormie, il ne put se résigner à répandre son sang, ni à gâter d'une blessure cette peau si blanche plus blanche que l'albâtre. Cependant, il avait décidé qu'elle mourrait. Autrement, disait-il, elle trahira d'autres âmes comme elle m'a trahi moi-même. Alors il la baisa au front pour la dernière fois, et ce baiser lui parut si doux qu'il lui fallut la baiser encore. Et il pleura. Mais ses pleurs, disait-il, étaient des pleurs de rage. Éveillé par ses caresses, Desdémone regarda Othello, et le vit se mordre la lèvre inférieure et rouler les yeux féroces, toujours fatal, elle le savait. « Préparez-vous à mourir, lui dit-il, et dites vos prières, car je ne veux pas tuer votre âme. » Se voyant ainsi à sa merci, l'innocente épouse demanda grâce et voulut savoir de quoi elle était coupable. Alors il nomma Cassio et parla du mouchoir qu'elle lui avait donné, disait-il. Et comme la pauvre femme allait se justifier, il refusa soudain d'en entendre davantage et, la recouvrant de ses draps, il l'étouffa. À ce moment, on apportait dans la maison Cassio, blessé et couvert de sang. Iago avait aposté une de ses créatures pour l'assassiner. Mais le meurtrier, n'ayant pu réussir à le tuer, ni même à le blesser mortellement, avait été tué lui-même par Iago, qui craignait que son attentat contre Cassio ne fût découvert. Or, dans les poches de cet homme, on avait trouvé certaines lettres qui démontraient, claires comme le jour, la culpabilité d'Iago et l'innocence de Cassio. Et celui-ci venait maintenant implorer le pardon d'Othello et lui demander en quoi il avait pu l'offenser si fort qu'il eût donné à Iago l'ordre de l'assassiner. Cette découverte fut un coup de foudre pour Othello, qui comprit aussitôt que lui-même n'était qu'un assassin et que sa femme, la pauvre innocente, lui était toujours demeurée fidèle. Bourrelé de remords et ne pouvant survivre à cette révélation, il se jeta sur son épée et se laissant tomber sur le corps inanimé de sa chère et malheureuse femme, il expira. Grandes furent l'horreur et la consternation des témoins de ces tragiques événements, car Othello avait une réputation sans tache et s'était toujours montré éperdument épris de Desdémone jusqu'au jour fatal où les détestables manœuvres d'un scélérat que, dans sa noblesse native, il n'avait jamais songé à suspecter, l'avaient poussé à des actes de désespoir. Il avait aimé, mais sans sagesse et avec excès. Et quand il vit son erreur, les larmes si rares chez lui coulèrent de ses yeux de héros aussi pressés que les flots de gomme des arbres d'Arabie. Lui, mort, chacun se rappela ses nobles actions et ses prodiges de valeur. Il ne restait plus à son successeur qu'à appliquer les plus sévères provisions de la loi à Iago, qui périt au milieu des tortures les plus raffinées. Après quoi, on fit savoir au gouvernement de Venise la mort lamentable de son illustre général.